L'idée est venue d'un groupe de personnes, ménages et personnes retraitées. Donc nous nous interrogions sur, pas la fin de vie, mais disons cette partie de vie à partir de la retraite. Et puis pour la suite, hein, on sait bien que maintenant, il faut s'organiser. Nous, on avait vraiment pris conscience que notre grand âge, enfin bon, si c'est un petit peu un mot fort, mais il fallait le préparer tout de suite et qu'il n'était pas trop tôt pour le préparer. Nos enfants sont partis, ils sont loin. Maintenant, on ne voulait pas peser sur eux. On sait bien qu'ils se font du souci aussi. Ça les préoccupe, hein, les parents qui deviennent âgés les préoccupent. Et puis, donc on voulait s'organiser. On en parlait comme ça à bâton rompu. Et puis, on sentait aussi que du côté des jeunes foyers, il y avait une attente de vivre dans un quartier qui soit... convivial, qu'il n'y ait pas d'indifférence, qu'on puisse saluer ses voisins, etc. Donc voilà, il y avait ce petit terreau au départ de désir. Et puis nous avons eu, je ne sais pas plus par quel hasard, un article de presse où on parlait de l'habitat groupé solidaire. Alors là, ça a été le déclic. On s'est dit, voilà, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il faut s'intéresser à ces projets. Donc voilà, on s'est mis en quête d'informations, de renseignements sur l'habitat groupé solidaire. Et puis, petit à petit, le projet a pris forme jusqu'à la constitution d'une association avec un groupe donc de couples et de personnes retraitées. Peut-être on va vous expliquer ce que c'est que l'habitat participatif solidaire.
Ouais, avant de parler un peu de ça, le groupe de départ, c'est quoi? C'est des amis, des gens qui habitent dans le même quartier ou...
Oui. Oui, en fait, ce sont, et même jusqu'à présent, on peut parler de cooptation dans la mesure où tous les membres du groupe, jusqu'à présent, font partie d'un réseau de connaissances, enfin, sont des liens familiaux, des liens d'amitié et aussi des connaissances plus ou moins proches. Des personnes qui font la démarche collective d'essayer de mettre sur pied un projet d'habitat groupé.
Alors, habitat groupé, habitat partagé, habitat coopératif, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites définitions? Comment vous voyez cette forme d'habitat, quoi?
Alors, les informations qu'on a eues parlaient d'habitat groupé autogéré. Hein. C'est vraiment l'origine de l'habitat groupé en France, c'est l'habitat groupé autogéré. Alors autogéré pourquoi? Parce que on se passe dans ce projet d'habitat, on se passe d'un promoteur. On contourne la forme de promotion classique où des habitants achètent un promoteur, un bâtiment, où font bâtir une maison individuelle. Dans un souci d'économie, on se passe d'un promoteur, et d'une part, et d'autre part, l'habitat est conçu dans un lieu et en fonction des besoins des habitants. C'est-à-dire qu'une famille veut 100 mètres carrés, une personne seule en veut 40, donc c'est un habitat qui est modulé en fonction des besoins réels des personnes. Donc on n'entre pas dans des schémas préconçus pour les habitants. Et par la suite, l'habitat groupé, c'est aussi l'autopromotion, c'est aussi le syndic bénévole. C'est-à-dire qu'on gère notre immeuble, on gère, souvent ce sont des immeubles, hein, on gère le logement, on se partage la gestion, l'administration, donc il y a un fonds de roulement pour les dépenses communes. Et une des caractéristiques aussi importantes qu'il faut tout de suite souligner de l'habitat groupé, ce sont les espaces partagés ou mutualisés. Bon, alors espace commun, on emploiera plutôt le mot mutualisé ou partagé, ça peut être, c'est le plus souvent une salle commune, donc qui sert aux familles ou à l'ensemble des habitants. Ça peut être des chambres d'amis de façon à recevoir soit de sa famille ou des personnes extérieures de passage. Ça peut être aussi une buanderie commune, une salle pour sécher le linge, un atelier, un jardin. très souvent un jardin. Donc tout ça, ça forme des espaces partagés qui sont aussi le lieu de la rencontre et de la convivialité. Ce n'est pas seulement une fonction d'économie d'échelle.
Derrière le mot autogestion, il y a aussi l'idée d'une gestion démocratique de ces espaces, de l'ensemble des décisions qui ont trait au logement.
Tout à fait. Hein, souvent, c'est bon. Il y a une forme d'organisation, un règlement intérieur, mais en général, c'est une personne, une voix hein, dans les sociétés coopératives de construction. Une personne, une voix. Et les exemples que nous avons, les retours que nous avons, c'est que une personne, une voix, mais en général, on essaie de prendre en compte, parce que derrière une revendication, par exemple, d'un habitant, c'est souvent fondé. Donc, comment prendre en compte la revendication, ou le souhait d'un habitant qui ne rejoint pas, qui ne fait pas consensus. Donc, voilà, dans la réalité, du fonctionnement des groupes, souvent il y a une recherche hein, de trouver la solution à celui qui émet une difficulté. On pense à Villeneuve-d'Ascq, Villeneuve-d'Ascq qui est anagramme, habitat groupé depuis 20 ans. À titre d'exemple, une personne souhaitait qu'on ferme le portail qui ouvre l'habitat groupé sur la rue parce qu'elle avait été cambriolée et donc elle souhaitait qu'on ferme le portail. Et l'ensemble du groupe ne le souhaitait pas. Ils voulaient que l'habitat reste ouvert sur le quartier. Donc ils ont trouvé une solution de la façon suivante, c'est que la personne concernée, son habitat était clos par une petite barrière qui n'est pas enfermée dans son logement, ça reste très discret, mais elle se sent plus en sécurité dans son logement et le portail reste ouvert. Ça, c'est important.
Quand on parle d'habitat partagé, peut-être les gens dans la rue ou des personnes peuvent vous renvoyer à l'idée de vie communautaire avec des chèvres, tout ça. Voilà. Comment vous voyez cet argument ? J'imagine qu'on vous le met souvent devant les yeux.
Oui, tout à fait. Oui, on s'imagine un groupe sectaire qui se mettrait ensemble pour défendre une cause. Alors là, pas du tout, pas du tout. Les seules causes que nous défendons, c'est la solidarité, c'est la convivialité, de voisinage. Voilà, il n'y a absolument pas d'ailleurs, c'est inscrit dans la charte, pas de prosélytisme d'aucune façon, que ce soit politique, religieux. Et simplement, vraiment le fondement de ces groupes, c'est la solidarité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va vivre tout le temps les uns chez les autres. L'intimité de chacun est respectée. Il n'est pas question de s'imposer chez l'un ou chez l'autre. Chacun garde sa vie familiale, amicale. Chacun est libre de recevoir qui il veut, comme il veut. Il n'y a aucune obligation de se rendre à à part les rencontres, bien entendu, qui sont nécessaires au sein de l'habitat groupé pour les questions de gestion et puis quand même de se voir un petit peu, mais sinon il n'y a aucune obligation d'aller chez les uns les autres et des repas obligatoires ou je ne sais quoi d'ailleurs. Chacun garde, chacun chez soi, mais jamais chacun pour soi. Je crois que c'est un petit peu une formule qui avait été donnée par un habitat groupé. Je crois que ça résume bien, la liberté de chacun, mais jamais dans la différence des uns des autres.
Sur une bouteille de trou noir, je remonte sans cesse le comptoir de mes rêves. Et là je me stoppe et je regarde tellement de gens différents, des pas marrants, oh pas mariés, oh marin qui n'aime pas ramer, oh marin qui n'aime pas ramer. Et ces maisons qu'on ne finit pas, et ces maisons qu'on ne finit pas. qu'on emménage. Deux postes de télévision qui me servent à rien pour que je te rende compte que tu lui parles, lui poses la bonne question, qu'il n'ose pas entendre la réponse, qu'il n'ose pas entendre la réponse.
On est toujours en compagnie de Monique Canesson et Christiane Drelon de l'association Les 4 Saisons et on parle avec elles de leur projet d'habitat participatif à Arras.
Terminé, alors hop, on s'en va.
Vous avez cité l'exemple d'Anagramme à Villeneuve-d'Ascq. Hein. Est-ce que vous êtes allé voir d'autres exemples, d'autres expériences ailleurs d'habitat groupé, d'habitat partagé ?
En tout cas, au sein de nous sommes adhérentes à, enfin le groupe est adhérent à Éco-Habitat Groupé, donc qui avait organisé cette journée sur l'habitat participatif du samedi 10 décembre. Et donc au sein de ce groupe, au sein de cette association nationale. Nous avons fait de nombreuses rencontres, des représentants des habitats participatifs qui sont déjà dans leur mur depuis 20-30 ans. Alors pour nous, c'était extrêmement important parce que la question, c'était, oui, mais dans le temps, comment un groupe peut tenir, à quelles conditions, quelles sont les erreurs à éviter, quelle est la bonne taille pour le groupe, comment les personnes ont résolu les difficultés. Les habitats groupés, c'est très difficile, c'est très très difficile à mettre en place pour des raisons financières, des raisons juridiques. Ça n'est pas dans la culture française. Hein. Les coopératives de construction ne sont pas du tout dans la culture française. Et en tout cas, la législation ne favorise pas le montage d'un tel projet. Mais ceci dit, il en existe et donc il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas leurs traces.
Alors justement, à Arras, où en est votre projet ?
Alors, notre projet, effectivement, on avait répondu à l'appel à projet lancé par la communauté urbaine d'Arras sur la citadelle. Le calendrier était très, très serré et la difficulté, pour nous, ça a été très vite, mais comme tous les groupes, on se retrouve confronté quel montage juridique, quel financement. Donc, nous avons choisi une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider à résoudre ces problèmes. C'est vrai que le partenariat, même, on peut dire, avec la communauté urbaine et la ville, ont été très fructueux. Nos interlocuteurs, donc les responsables des services concernés, on a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. La difficulté pour la citadelle, au fur et à mesure que le projet se montait, il y a eu une difficulté qui s'est imposée à nous et un choix, c'était que les bâtiments de la citadelle sont très grands. D'autre part, techniquement, puisque nous avons fait appel à un ingénieur, un architecte, hein, pour voir comment traiter les bâtiments en logement. Il y avait deux bâtiments qui nous intéressaient. En fait, ce sont des bâtiments qui ne peuvent être traités que sur leur totalité, à cause de leur structure. Donc, ça fait des bâtiments de 30 logements à peu près. Alors, nous, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on se lance dans un projet de 30 logements. Et là, on ne le sentait pas. Parce que gérer un groupe de 30 logements en autopromotion, en habitat groupé, ça n'est pas possible. Ça ne s'est pas fait. Ou en tout cas, les habitats dits participatifs, dits habitats groupés en autopromotion de 30, ça ne fonctionne pas. C'est trop important, la taille du groupe est trop importante et on est dépassé, on peut pas gérer ça, c'est pas réaliste. Donc voilà, on reste en partenariat avec la CUA pour un site, mais la dimension, la taille du groupe, pour nous, on a réfléchi, mais pour nous non, on ne part pas sur un projet de 30 logements, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'est plus dans du participatif, on n'est plus dans de l'autogestion. Donc voilà, on fait ce choix, bon, sachant que dans le groupe, la citadelle, certains avaient des réticences par rapport au devenir du site. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un vrai quartier avec commerce, tout ça. Bon, c'est vrai que ça a été, de la part de certains, des réticences hein, qui se sont exprimer un vrai quartier avec une vie de quartier. Bon, voilà, donc on revient vraiment aux fondamentaux des quatre saisons.
À chaque étage, des visages par milliers. À chaque fenêtre, des peut-être familiers.
Alors, je reviens sur l'appel à projet de la communauté urbaine d'Arras. Bon, moi, ça m'a un petit peu surpris parce que bon, la CUA n'est pas particulièrement fan en général des projets alternatifs. Là, il lance cet appel à projet sur cette chose-là. Comment ça s'est passé? C'est vous qui leur avez parlé de cette idée ou comment ça s'est fait?
C'est nous qui avons fait la démarche au début de l'année 2011. Bon, le groupe était déjà mûrissait depuis 2006. Hein. Ce n'est pas un projet qui nous est venu comme ça récemment. On s'est dit ce que beaucoup ont fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un tel projet commence à mûrir, très vite, les personnes ont besoin de se projeter sur un site. Quand les délais. Mais c'est vrai que se projeter sur un site, ça permet de mobiliser les personnes autour du projet. Sinon, ça reste dans le flou, dans le vague, et les bonnes volontés, enfin, les envies commencent, s'essoufflent. Hein. Et donc, nous avons sollicité la ville d'Arras et la CUA, et il y a eu d'autres propositions que ce site. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, la citadelle dont on ne rêvait pas, ça nous paraissait. On a dit, bon, on va répondre sur la citadelle, mais il y a eu d'autres propositions. Donc, ensuite, il y a eu toutes ces réflexions sur le montage juridique et financier. Qui est complexe de toute façon, et la complexité pour Arras, elle vient de la composition, de la nature même de notre groupe, c'est-à-dire la diversité de notre groupe, qui est aussi sa richesse, parce qu'il y a beaucoup de disparités en termes de revenus, de patrimoine, et la solidarité jusqu'à présent a beaucoup joué, la solidarité financière, hein, puisque des fonds ont été avancés par certains, donc la solidarité financière joue à fond. Ceci dit, sur le long terme, il y a bien sûr des problèmes de financement. Certains membres du groupe relèvent de l'accession aidée, d'autres carrément du logement social, et d'autres ont du patrimoine pour acheter. Donc tout ça, c'est assez rare ce type de projet. Bon, il y en a un qu'on va suivre, qui a été évoqué à Villeneuve-d'Ascq. Donc on est en lien aussi avec des partenaires comme Habitat et Humanisme, la Fondation de France aussi, qui ont une bonne écoute sur le projet. Et donc, il faut avancer sur ces dossiers-là pour ne pas exclure. Voilà, on ne veut pas exclure ceux qui ont le moins de ressources de ce projet.
Parce que ce qu'il faut dire, sans faire de généralisation, mais dans beaucoup d'exemples d'habitat partagé, on retrouve quand même des classes sociales plutôt aisées, cadres supérieurs, avec des groupes relativement homogènes.
Oui.
Et justement, comment faire pour qu'il y ait une mixité sociale dans ce genre de projet, quoi.
C'est vrai que c'est un gros problème parce que, il faut rentrer dans des cases. Alors, effectivement, les groupes d'habitat groupés jusqu'à présent étaient très homogènes, enfin, ceux que l'on connaît. C'est-à-dire que soit c'était des jeunes ménages, ou il y a 20-30 ans, ce sont des ménages qui démarrent dans la vie et qui bénéficient de prêts, hein, de prêts immobiliers classiques. Ou alors, on est comme les Baba Yaga à Paris, à Montreuil, avec homogénéité aussi des générations, de toute façon, des personnes retraitées, donc qui relèvent du logement social. comment dire, la mixité d'un groupe, on n'a pas d'exemple. Donc c'est vrai que le projet Arajoie ne s'inscrit pas dans les cases institutionnelles, les cases de financement. Alors les bailleurs sociaux nous disent, mais oui, mais les revenus sont trop élevés ou passés. Donc il y a des tranches dans lesquelles il faut entrer. Mais nous, on ne veut pas abandonner cette mixité. On ne veut pas l'abandonner, non pas qu'elle était recherchée, elle était naturelle au départ. Elle est naturelle entre la personne qui est assistante maternelle et c'est vrai des personnes qui étaient cadre A. On n'arrive pas à entrer dans des cases. Donc il faut trouver le montage un peu fin et donc l'interlocuteur qui accepterait la philosophie du projet qui tient à sa mixité, mais une mixité non pas voulue, mais de fait. La communauté urbaine a adhéré à la charte, a signé la charte de l'habitat participatif, donc qui regroupe des grandes villes en France. Hein, ils sont très intéressés par ce type de projet. Je pense que sur Arras, il y aura sans doute d'autres projets d'habitat participatif. Oui. Nous, on arrive un peu trop tôt, peut-être, parce que s'il y avait eu 3 ou 4 groupes d'habitat participatif, c'est un peu le paradoxe, quoi. Pour la Citadelle, par exemple, c'est vrai que s'il y avait eu 3 ou 4 groupes d'habitat participatif, c'était sensationnel, quoi. Mais là, on peut pas. Voilà, ça fait des entités. Les structurellement, on peut pas découper les bâtiments en différents lots. Et puis, il faut que les travaux se fassent sur l'ensemble d'un bâtiment.
Et alors, je reviens sur la démarche de la communauté urbaine d'Arras. Pourquoi eux, ils préféreraient, par exemple, un groupe comme le vôtre à un promoteur immobilier qui paierait certainement peut-être plus cher, enfin, comment ça se passe, en fait, et pourquoi vous pensez qu'ils adhèrent à cette charte? Quelles sont leurs motivations derrière ça?
Non, je pense que, en tout cas, nous, on ressent une grande sincérité de leur part. Enfin, étant donné le travail que nous avons fait avec les responsables de la communauté urbaine, nos interlocuteurs sur ce projet, ça a été quand même très riche et très. On a été soutenus. Et parce qu'on a, senti un intérêt réel.
Mmh. D'accord.
Ah oui, ah oui.
Je crois que la qualité de vie dans les quartiers, nous on avait beaucoup insisté là-dessus, hein, sur la qualité de vie entre les populations, et je pense que ça a été aussi quelque chose qui les a intéressés, quoi, hein, et puis que des gens se prennent en charge, et que surtout c'est une démarche aussi citoyenne, parce que beaucoup d'entre nous faisons partie d'associations, voilà, nous sommes un petit peu engagés, et ça aussi c'était intéressant pour eux, voilà. Quelles que soient nos associations, hein, elles sont vraiment diverses et variées. Mais je pense que la qualité de vie et puis l'engagement des gens, un petit peu, encore que tout le monde n'a pas l'obligation d'être engagé, mais voilà, c'était des gens qui se prenaient en charge, en quelque sorte. Donc, il me semble que ça les intéressait. Je ne veux pas parler pour eux, mais il me semble.
C'est Madame Ménard.
Je les gens.
les préoccupations de votre groupe, est-ce qu'il y a aussi des préoccupations d'ordre environnemental, des choses comme ça ?
Oui, tout à fait. Les habitats groupés, à l'origine, ça n'était pas une préoccupation, l'écologie, l'environnement, en tout cas dans la conception des projets. Aujourd'hui, ça l'est d'une façon totale. Hein. La dimension écologique est très présente. Elle est présente en termes donc, d'économie d'énergie, du traitement de l'eau. Hein, elle l'est aussi dans le mode de vie. C'est-à-dire qu'on a vite posé, ça rejoignait la solidarité, c'était très imbriqué à savoir que nous sommes quand même quelques-uns à dire ben moi ma voiture je la partage, je la prête, ou bien alors ça c'est vrai vous allez peut-être dire la vie communautaire non, tout ça ça reste totalement libre, hein. c'est comme aujourd'hui on se connaît, on peut se prêter des appareils, on mutualise certaines choses, est-ce qu'il faut je ne sais pas moi 4 perceuses dans 4 foyers, ou est-ce qu'on peut pas se prêter du matériel, bon ça tout le monde le fait dans son entourage, mais c'est vrai que après tout le monde n'a pas envie. Et on a eu des membres dans le groupe qui ont dit, mais attention, la buanderie commune, bon, on va me voler, ou un atelier commun, on va peut-être me voler mon marteau, ou bien, bon, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que c'est un état d'esprit. Hein, l'écologie, c'est pas... comment dire, les économies d'énergie qui aussi se traduisent dans le partage des biens, c'est un état d'esprit. Faut pas que ça reste quelque chose d'intellectuel ou d'idéologique. Hein. C'est dans la vie quotidienne qu'on peut aussi avoir une attitude écologique au travers de la solidarité et du partage.
Oui, d'ailleurs, on avait aussi réfléchi au traitement des déchets. On avait envisagé de vraiment faire un vrai tri, de que les déchets soient vraiment à la fois valorisés et bien traités pour ne pas encombrer, le fait de partager, de mutualiser certains services permet d'économiser sur les dépenses d'essence, sur l'achat d'appareils, des appareils de ménage, d'appareils de bricolage, etc. Mais il y a des tas de petites choses qui permettent comme ça de faire des économies d'une manière générale, autant pour sa poche que pour les économies d'énergie. Ça, c'est très important.
Dans la discussion que vous avez pu avoir, la place de la salle commune, que faire dans cette salle commune ?
La salle commune, c'est d'abord à l'usage, bien sûr, des habitants. Hein, qui peuvent l'utiliser collectivement ou à titre personnel s'ils veulent recevoir des amis de la famille. Mais c'était régler une préoccupation actuelle pour ceux et celles qui sont dans les associations qui ont bien du mal à avoir des locaux pour se réunir. Et souvent, ça se fait au domicile des uns et des autres. Et donc, c'était ouvrir la salle à des associations amies, des personnes qui ou à des groupements, mais bien sûr sans contrepartie financière. Hein, c'est pas question de louer ou de, mais simplement mettre à disposition, non pas d'une façon totalement libre, parce que que ça serve à d'autres familles, que ça serve à des groupements qui n'ont pas de locaux fixes ou qui doivent se réunir chez eux. Donc c'est vraiment l'ouverture sur un quartier ou sur d'autres groupes.
Oui, et puis pourquoi avoir des pièces, des salles à manger de 30 ou 30 mètres carrés pour un repas ou deux de famille par an ? Autant avoir une grande pièce, diminuer sa surface dans son propre logement et puis pouvoir occuper et puis se servir de la grande salle à manger une ou deux fois par an. Bien sûr, on s'arrange entre nous. C'est pareil pour la chambre d'hôte. À quoi ça sert d'avoir une chambre qui ne sert strictement à rien tout au long de l'année, et puis, alors que l'on peut avoir une chambre mutualisée qui servira d'appoint le jour où on reçoit ses enfants ou des amis de passage. Et ça n'arrive pas toujours... on peut arriver à s'arranger, quoi.
Dernière question, c'est sur le nom de votre groupe, les quatre saisons. Pourquoi les quatre saisons
On a pensé aux quatre saisons parce qu'on voulait justement des générations, des tout petits, des moyens, des adultes, et puis après, des gens plus âgés. On voulait une diversité, une variété de générations. On ne veut pas rester ou entre vieux ou entre jeunes, mais voilà, que ce soit la vraie vie, quoi, qu'il y ait vraiment des générations différentes et que les personnes plus jeunes, que les enfants continuent à côtoyer des personnes âgées et vice-versa, que les personnes âgées ne soient pas coupées du monde des jeunes et puis de leurs préoccupations, de leur réalité, et de pouvoir se rendre service les uns envers les autres. Ça nous paraît vraiment très très important de recréer une vraie vie.
Christiane Drolon et Monique Canesson de l'association Les Quatre Saisons qui portent ce projet d'habitat participatif à Arras. Si vous voulez rejoindre ce groupe ou si vous voulez avoir plus de renseignements pour pourquoi pas créer vos propres projets d'habitat partagé, sachez que vous retrouverez le contact mail, le contact téléphone sur notre site internet www.radiopfm.com. Vous pourrez aussi écouter ou réécouter ce sujet dans sa version intégrale. Je vous signale aussi que dans l'émission Ma Cité m'a dit, émission mensuelle d'urbanisme populaire, on consacrera ce mois de décembre un dossier spécial à ce thème de l'habitat partagé. Donc si tout se passe bien, ça sera le lundi 26 décembre à 21h30.